Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur RLP, Radio Libre en Périgord. Je suis Jennifer Martin, psychologue clinicienne sur Périgueux. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le numéro 3 de notre chronique radiophonique sur l'addiction. Nous enregistrons cette chronique en novembre 2024. Novembre, le mois du ciel gris, des parapluies, des dernières feuilles qui restent sur les arbres. Novembre, c'est aussi en France le mois de « Moi sans tabac ». Et cette année, cette campagne nationale d'aide à l'arrêt du tabagisme signe sa 9e édition. « Moi sans tabac », qu'est-ce que c'est ? Une campagne de prévention organisée par Santé publique France avec le soutien du ministère de la Santé et de l'Assurance maladie qui a pour objectif d'inciter les fumeurs à relever le challenge d'arrêter de fumer pendant les 30 jours du mois. Cette opération est directement inspirée du Stop October lancé en 2012 en Angleterre. Moi sans tabac, c'est un véritable défi collectif qui va s'appuyer sur la puissance du tous ensemble pour accompagner celles et ceux qui décident de se passer de la cigarette pendant 30 jours. Vous l'aurez peut-être compris, si je me passe de fumer pendant un mois, alors pourquoi pas deux ? Pourquoi pas trois ? Les statistiques montrent d'ailleurs qu'un mois sans tabac augmente par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. Arrêter de fumer ? Ah, peut-être avez-vous déjà eu ces pensées. Je voudrais bien, mais c'est pas le moment. Ah, quand je pense à ce que je pourrais faire avec cet argent. Un jour, c'est ma santé qui va payer. Ou bien, plus tard, peut-être. Ces pensées-là, je les ai eues moi aussi. Comme je le disais lors de la première chronique, je compte plus de 20 ans de tabagisme au compteur, ainsi que plusieurs tentatives d'arrêt. Car si pour certains fumeurs, c'est une fois décidé, une fois arrêté sans aucune rechute tabagique, pour beaucoup d'autres, la majorité, l'arrêt du tabac s'apparente à un long voyage semé d'embûches où l'envie, la motivation, les réussites, les faux pas, les rechutes, le découragement et la remotivation se suivent irrémédiablement. Trébucher, chuter, tomber et se relever. Encore. Nous l'avons vu, le cerveau addicté est loin de se limiter à une question de volonté. Tout peut partir, bien sûr, de là. Vouloir arrêter. Se succèdent alors ces moments où la motivation est telle qu'on pourrait jeter tout de suite son paquet à la poubelle. Mais où, la seconde d'après, se glisse une autre pensée. Allez, une dernière alors. Et où l'on remet une cigarette à la bouche et le paquet dans sa poche. Ce « je voudrais bien, mais je peux point », manifestation d'une de nos caractéristiques bien humaines, nommée ambivalence, qui s'exprime par deux mouvements opposés, comme si, attaché à un élastique, chaque pas effectué finissait par irrémédiablement me ramener en arrière. L'ambivalence, ou ce « alors que j'en ai envie, je ne le fais pas ». C'est donc peut-être que je n'en ai pas envie tant que ça. Ou bien peut-être que j'en ai envie, mais que la peur me retient. Vouloir arrêter, c'est un début, oui. Le décider, c'est un grand pas. Un premier grand pas. Et pour céder à ça, on peut déjà se regarder fonctionner et regarder ses peurs en face. Lors d'un épisode précédent, nous évoquions l'influence de l'environnement sur nos consommations, nos premières consommations, nos premières influences qui peuvent nous amener à l'addiction. Le tabac, l'alcool et certaines classes de médicaments sont des produits de consommation licite, c'est-à-dire autorisés, et qui peuvent générer une dépendance chez chaque consommateur. En France, le tabagisme prend son envol vers le milieu du 19e siècle, avec l'apparition de la cigarette entre 1830 et 1840, qui constitue un moyen efficace et peu coûteux pour l'utilisation du tabac. Le tabac, dont les premières graines furent rapportées en Europe en 1520, et dont l'usage se répand comme une traînée de poudre et auquel on prête à la fin du XVIe siècle de nombreuses vertus thérapeutiques. C'est en 1868 que l'Association française contre l'abus du tabac est créée et demande à être reconnue d'utilité publique, sans y arriver du fait de l'aspect très rentable de la vente de tabac. En 1944, les GIs américains, venus libérer l'Europe, apportent leurs cigarettes blondes, début de l'invasion du tabac blond et des marques américaines sur le territoire européen. La cigarette filtre apparaît en 1950 après que soit prouvée la toxicité du tabac. En France, aujourd'hui, c'est 75 000 personnes qui meurent chaque année de tabagisme. Le tabagisme qui constitue la première cause de mortalité évitable. C'est aussi le constat, selon les données du baromètre de Santé publique France, d'un déclin progressif du tabagisme ces 10 dernières années. Le tabagisme quotidien a baissé de 4% et la consommation quotidienne de cigarettes est en baisse également. Génération 70 et 80 expérimentaient souvent leur première cigarette avec les copains à l'adolescence ou à l'armée, où était distribué gratuitement aux militaires le tabac de troupe à l'armée française jusqu'en 1986. La puissance de l'industrie du tabac face aux différentes lois et stratégies de lutte contre le tabagisme des pouvoirs publics, le tabac en vente libre face au challenge de « Moi sans tabac » en novembre, voilà bien ici encore l'expression d'une certaine ambivalence. Pourquoi arrêter ? Pourquoi arrêter maintenant ? Quels peuvent être les avantages et les inconvénients ? Que se passerait-il aujourd'hui dans ma vie si j'arrêtais ? Voilà quelques questions que je me suis moi-même posées avant mon premier arrêt et entre tous les suivants, en faisant un tableau à colonnes, avantages, inconvénients à arrêter de fumer, qui m'a permis de faire face à ma propre ambivalence, aux peurs et aux freins qui m'empêchaient d'aller vers cette décision. Alors, si pour certains auditeurs, la petite graine de l'arrêt commençait tranquillement à germer, voici quelques éclairages qui pourraient l'aider à pousser. Arrêter de fumer, c'est prendre conscience et ressentir les grandes capacités de récupération de notre corps. Voilà ce que pourrait nous dire un corps à qui nous avons fait ce formidable cadeau d'arrêter de fumer. En 20 minutes, ma pression sanguine et mes pulsations cardiaques redeviennent normales. En quelques heures, le taux de monoxyde de carbone diminue. En 8 heures, il est divisé par 2. Ça y est, je me sens plus oxygéné. En 24 heures, mes poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée. J'ai complètement éliminé le monoxyde de carbone. En 48 heures, ça y est, je commence à retrouver le goût et l'odorat. 72 heures, je respire mieux, mes bronches s'ouvrent. En quelques semaines, mon teint est plus lumineux. Je tousse moins le matin, je suis moins fatiguée. Ça y est, je sens l'énergie me retrouver. Je marche plus facilement. Un mois, j'ai 5 fois plus de chances de ne plus jamais retoucher une cigarette. Un an. Le risque d'infarctus du myocarde a diminué de moitié et le risque d'AVC est le même que si je n'avais jamais fumé. Quelques années, j'ai moins de risques d'avoir un cancer du poumon et au bout de 10 à 15 ans, c'est comme si je n'avais jamais fumé. Alors, tentez, voici quelques ressources pour passer le pas et se faire accompagner. La consultation de tabacologie au Centre d'aide au sevrage tabagique de l'hôpital de Périgueux, l'association ANPA sur Périgueux, mais également en ligne l'application Tabac Info Service au 39 89 où l'on peut s'évaluer, faire un diagnostic de sa consommation, déterminer ses motivations et ses propres ressources. Ce troisième épisode s'achève ici. Un grand merci à toi, cher auditeur, d'avoir écouté jusqu'ici. C'était Jennifer Martin, psychologue clinicienne. Pour me contacter ou prendre rendez-vous, c'est au 33 boulevard Georges Saumande à Périgueux, à mon cabinet L'Espace Rainbow, car après la pluie vient l'arc-en-ciel. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'exploration de l'addiction qui tentera en toute humilité d'éclairer un peu plus nos zones d'ombre.